Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2. On est toujours à la fête des Canu Info. Venez nous rejoindre Place Satonnet. On est en direct et on commence tout de suite notre plateau Contre les frontières où on a invité le collectif Sans Papiers 69 et le collectif Anticra. Et avant de commencer notre première interview, on écoute tout de suite un petit extrait pour nous mettre dans l'ambiance.
Décidé de faire l'acte 3, et c'est cette marche-là donc, qui vient d'arriver ici à Vénissé et à Lille. Donc c'est pour toujours la régularisation, pour la fermeture des centres de rétention et pour les logements pour toutes et pour tous.
Voilà, c'était un petit extrait du passage de la Marche nationale des sans-papiers à Lyon. Ça met de l'ambiance. Et on accueille du coup Najet du collectif Sans-papiers 69. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci d'être venu. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on vient d'entendre, nous réexpliquer ce que c'était cette marche vers l'Élysée ?
Déjà, depuis l'extrait, moi, je souviens l'ambiance de la marche. C'est très touchant. Je vous parlais de la marche nationale, peut-être que c'est cet acte, l'acte roi, qui a été très important pour tous les sans-papiers, pour tous les collectifs depuis 2020. D'ailleurs, parce qu'on a commencé la lutte, vraiment une vraie lutte à cette période sanitaire très difficile pendant le Covid-19. Parce que les sans-papiers, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qui les sans-papiers ? C'est pas, on n'a pas de papiers, mais on n'a pas les bons papiers. C'est des immigrés, des mineurs isolés, des familles qui sont arrivées en France, mais on n'a pas les bons papiers, on n'a pas la régularisation, on n'a pas la nationalité, on n'a pas une carte séjour. Mais on a le passeport, on a une identification. Donc, on n'a pas de solution, juste peut-être pour travailler au noir. C'est la seule ressource pour nous. Et pendant le Covid, vous avez déjà souvenu que tous les restaurants sont fermés, tous les boulangers et toutes les ressources qu'un sans-papier peut travailler dedans, ils sont fermés. Donc, et ça qui peut-être c'est la cause qui a poussé les sans-papiers de se bouger, de se mobiliser dans toute la France. Parce qu'au début, la mobilisation, elle était sur les médias, au Facebook. C'est-à-dire, par exemple, à Lyon, on a commencé la mobilisation grâce à la mobilisation à Paris qui était sur Facebook, sur tous les réseaux médias. Et malgré le confinement, à Paris, ils ont organisé pour la première manifestation le 30 mai 2020. Non déclarée déjà, non autorisée, mais tous les sans-papiers ils sont à la rue. Et tous les sans-papiers des autres villes aussi, on a influencé par cet acte et on a décidé de sortir. C'est-à-dire que c'est le premier jour qu'on a sorti pendant les confinements, c'est pour cette manifestation. On a le rassemblement à la place de Taureau, ici à côté. Nous ne sommes pas trop nombreux ces jours-là. Il y a beaucoup de soutien, mais pour les sans-papiers, surtout c'est le confinement et tout, peut-être ils sont un peu hésités. Mais ça, ces jours-là, on a commencé la lutte, vraiment. C'est une vraie lutte qu'on a commencée. Et la mobilisation, peut-être à Paris, Moi, je dis franchement, parce que c'est des anciens collectifs qui nous ont donné la force pour continuer. Parce qu'après cette manifestation aussi, le 30 mai, on n'a rien reçu comme de réponse. Ou bien l'État elle a fait l'oreille sourde pour nous. Elle n'a pas même réagi. Et ça qui peut-être a poussé les sans-papiers de penser à un deuxième acte, c'est le 20 juin. Et le 20 juin 2020, elle était une grande manifestation à Lyon. Une grande mobilisation dans toutes les villes et surtout à Lyon. Et c'est aussi pendant le Covid. Mais toujours, il n'y a pas une réaction. Et alors, peut-être, on a dit une manifestation ou bien un rassemblement, peut-être, c'est pas efficace, peut-être, pour avoir une réponse à nos revendications fondamentales, surtout c'est la régularisation massive de tous et toutes, logement pour tous et toutes, et la fermeture du centre de rétention administrative. Donc, avec la marche de solidarité, c'est des syndicats, les associations, les collectifs, et peut-être cette période de Covid, même c'est une période négative, mais elle a donné le positif pour nous, parce qu'à cette période et à cette cause peut-être négative, ou bien à cette situation négative, elle a poussé de création de nouveaux collectifs dans toute la France. Aussi, même s'il y a des anciens collectifs qui ne sont pas actifs, ils ont recommencé la mobilisation. Et on a fait chaque semaine, chaque jour, pendant la semaine, peut-être depuis 20 juin jusqu'à 19 septembre, on a des réunions visio hebdomadaires chaque semaine pour organiser l'acte roi, c'est la marche nationale. Un mois de marche depuis Marseille jusqu'à Paris, vers l'Elysée, depuis 19 septembre jusqu'à 17 octobre. Moi, personnellement, dès que notre collectif, nous sommes débutantes, c'est un nouveau collectif, on n'était pas trop nombreux des membres actifs, mais on a réussi de diviser les tâches. Et aussi grâce à nos soutiens, que je remercie toujours, les soutiens, les collectifs Antikra, les soutiens de sans-papiers, les syndicats, ils sont vraiment, même le collectif de Korwarus pour les mineurs, on a les Sequat et tout, ils ont vraiment à cette période-là, nous sommes très, pendant la marche, je trouve que les sans-papiers sont très mobilisés et actifs. J'étais à Marseille le 19 septembre. On a commencé la marche jusqu'à juste les deux premiers jours. Et après, nous sommes obligés de revenir à Lyon pour organiser, parce que le 1er octobre, on va accueillir les marcheurs du Sud. Et le 2 octobre, on a accueillir les marcheurs de Grenoble. Donc, ils ont resté 5 jours. Ce qu'à Lyon, les marcheurs, 350 marcheurs et marcheuses. C'est-à-dire, il faut une grande organisation. Et c'est bien passé parce que les soutiens, surtout pour le logement, pour la nourriture, on a bien organisé, on a bien travaillé collectivement avec les soutiens, avec les syndicats, avec les associations, avec l'Antikra, avec les habitants du squat. Juste pour préciser peut-être l'accueil marcheur du Sud, on a accueilli le marcheur du Sud à Vinicieux, au marché de Manguette, parce que c'est symbolique, c'est le départ de marcheurs de 81. Ils ont fait leur départ de la marche de 81 de cette place-là. On a bien choisi la place et on a accueilli les anciens marcheurs qui ont fait des interventions ces jours-là. Monsieur Jalel Kemel, je lui dis salut. Et le 2 octobre, On a accueilli le marcheur de Grenoble et on a parti directement au centre de rétention administrative. On a fait une manifestation là-bas, un rassemblement.
Ok, on parlera de toute façon pas mal des centres de rétention administrative plus tard dans ce plateau. Et du coup, tu disais donc qu'il y a eu ces différents actes qui ont commencé pendant la période du Covid. Donc la marche nationale des sans-papiers, c'était cet acte 3.
Oui.
Et qu'il y a plusieurs collectifs qui se sont créés pendant toute cette période-là. Et donc il y a notamment, il me semble, le collectif sans-papiers 69 dont tu fais partie, qui s'est créé
oui, il
à ce
était
moment-là.
Créé oui, le 26 juin, après l'acte 2, après la manifestation du 20 juin, on a pensé de créer un collectif. On a commencé des faits de réunion chaque dimanche. Et aussi, après la marche, on a des rassemblements chaque vendredi devant la préfecture pour demander toujours la régularisation. Parce qu'après la marche, vraiment, on a l'espoir, surtout le jour qu'on est arrivé, le 17 octobre à Paris, pour marcher jusqu'à l'Élysée, mais nous étions arrêtés par la police. On a resté juste à la place. Et depuis ce jour-là, on n'a rien comme on n'a rien réalisé comme revendication, surtout pour cette période de Covid. Malgré que les sans-papiers, ils sont aux premières lignes pendant le Covid, les travailleurs, les livreurs, les vendeurs, les vendeuses, les femmes de ménage, aux hôpitaux aussi, ils ont accepté les sans-papiers, mais parce qu'il n'y a pas de travailleurs pendant le Covid. Donc, moi j'ai dit entre parenthèses, ils ont profité des sans-papiers à cette période-là et après, ils ont refusé de l'embaucher ou bien d'avoir la régularisation après.
Et du coup, avec le collectif Sans-papiers 69, vous avez organisé des rassemblements chaque semaine devant la préfecture par la suite. Est-ce que tu peux expliquer les autres activités que vous avez eues, tout ce que vous avez organisé, ce que vous organisez encore peut-être ?
Ok. Du coup, après la création de notre collectif, et on a fait des contacts avec plusieurs collectifs. On a décidé de prendre la route de même collectif, par exemple, de la même route de collectif de coordination 75 et Lille, depuis 20 ans et 25 ans. Ils ont un système avec la préfecture pour avoir la régularisation. Et nous, on a fait une délégation après la marche avec la préfecture pour avoir ce lien avec la préfecture pour déposer des dossiers. Et pour faire un rapport de force, on a fait des rassemblements chaque vendredi. Mais ils ont nous répondre qu'ils ont accepté ces liens, mais il est toujours théoriquement. Concrètement, on n'a pas eu des rendez-vous concrètement pour déposer des dossiers. Malgré qu'on a fait une deuxième délégation le 19 mars, mais toujours on attend la réponse. Et presque chaque deux semaines, nous sommes... attentif d'envoyer des emails à la préfecture pour faire la pression d'avoir une réponse. Mais toujours, on n'a pas une réponse jusqu'à maintenant. Depuis deux mois, peut-être, on a arrêté les rassemblements parce que il y a des empêchements des gens qui ont des formations, des travails et tout. On prend une période de repos pour le moment. Et on a des permanences juridiques aussi depuis qu'on a créé le collectif. Après 2-3 mois, chaque vendredi aussi à 18h. Et aussi, on attend une grande réunion pour qu'on organise. Parce que c'est normal, les sans-papiers qui attendent toujours la réponse ou bien activer ce lien... ou bien avoir une régularisation, au moins les droits de logement, ou bien on n'a rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Et tous les adhérents, ils ont désespéré et reculé du collectif. Et c'est normal. On n'a resté que 5-6 qui nous sommes actifs sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant parce que la lutte, si tu ne crois pas à la lutte, tu ne peux pas arracher tes papiers. Et pour le moment... c'est difficile à ces temps-là pour convaincre les sans-papiers de s'immobiliser, mais on pense prochainement peut-être Parce que c'est normal, chacun il a des empêchements, des familles, de travail et tout. Mais maintenant, nous sommes en galère, sans logement. C'est-à-dire déjà, c'est pas mal qu'on a lutté 2 ans pendant le Covid. Mais il nous a donné la visibilité à Lyon. Vraiment, on a beaucoup de contacts, beaucoup de soutien. Tous les mairies, tous les syndicats, toutes les associations, on est entouré de beaucoup de soutien. Et ça, c'est bien, mais il faut continuer.
Oui, vous avez aussi participé à beaucoup d'autres manifestations et événements organisés justement par d'autres collectifs, d'autres syndicats, pour amener la thématique des sans-papiers sur d'autres luttes. Donc, oui. Par exemple,
on a participé toujours, c'est normal, on a participé pour les manifestations de logement, surtout le 27 mars, parce que c'est un droit fondamental pour nous. Et c'est normal, les sans-papiers participent pour ces manifestations. Pour l'Anticra aussi, parce que l'Anticra, il est plein de sans-papiers, c'est pas des gens qui ils ont les papiers. Donc c'est normal pour participer à ces manifestations. Aussi, on a participé des manifestations contre les violences des femmes le 25 novembre, le 8 mars, la journée des droits des femmes aussi. On a participé à une action féministe européenne tout aux frontières à Nice le 5 juin. Aussi contre sommet à Montpellier depuis les 6 jusqu'à les 10 octobre 2021 aussi. Et ce jour-là, vraiment...
C'était le contre-sommet France-Afrique.
Le contre-sommet, oui. Et là, le sommet, mais nous, on a organisé le contre-sommet avec des syndicats, des collectifs de différentes villes. Et ce jour-là, en descendant des trains, déjà, on a trouvé les flics, ils ont fait des contrôles. Ils ont prené 7 des sans-papiers. Jusqu'à maintenant, nos camarades, déjà, aujourd'hui, ils ont un rassemblement devant la mairie de Montreuil à Paris. Pour toujours demander d'annuler ce QTF, parce que c'est pas normal. Des collectifs viennent pour participer pour un événement, et ils ont attaqué ou bien contrôlé par des flics. Et aussi c'est en descendant du train en bas. C'est pas déjà ces jours-là, on a changé même le programme de contre-sommet. On a manifesté toute la journée jusqu'à qu'ils ont libéré 5. Mais avec le QTF, ils ont resté 2 pour le lendemain. Et toujours, ils ont le QTF jusqu'à aujourd'hui.
Bah, du coup, ça nous permet de faire une petite transition pour présenter le collectif qu'on va interviewer juste après la pause. Mais ouais, parce que du coup, effectivement, être sans papier et donc vouloir participer à un contre-sommet ou même tout simplement se balader dans la rue, c'est aussi risqué de se faire arrêter, comme tu l'expliques.
Oui.
Et risquer l'enfermement en centre de rétention administrative.
Oui. Un sans-papier, toujours, il n'est pas à l'aise. Toujours, il vit avec la peur. Même tu vois un contrôleur, tu sens que ton corps, il bat. C'est-à-dire que tu n'es pas protégé, vraiment. Malgré que tu as des enfants à l'école, malgré que tu vives ici depuis 8 ans, 10 ans, mais le jour que tu es contrôlé, tombé au centre de rétention, ils ont envoyé, expulsé sans penser à ta vie qui était ici déjà comme un Français. Même tu ne peux pas peut-être vivre là-bas à ton pays maternel parce que c'est un changement que tu ne peux pas directement pour adopter, quoi. Et moi, je vois que déjà cette année, pendant l'élection, on a l'espoir peut-être pour avoir
quelqu'un de plus favorable.
Oui, mais toujours, on a reculé, quoi.
Ok, bah merci en tout cas Najet. On va faire tout de suite une petite pause musicale avec la Bamba Rebelde de Las Cafeteras. C'est une chanson contre les frontières.
Es la Bamba Rebelde que cantaré. sur Radio Canu 102.2 et en direct de la place Satonnet. On reçoit maintenant Cravant et Louise du collectif Anticrab. Bonjour.
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 Tout simplement, pour commencer, votre collectif s'appelle l'Anticrab. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie ? Est-ce que c'est qu'un centre de rétention administrative ? On en a un tout petit peu parlé avant, mais est-ce que vous pouvez développer ça ?
Du coup, nous, on est le collectif Anticrab de Lyon. Pour contextualiser rapidement, les centres de rétention, c'est des prisons dans lesquelles l'État enferme les personnes qui n'ont pas les bons papiers en vue de les expulser. Et donc, à Lyon, il y a un centre de rétention, il y en a même deux maintenant. Et du coup, voilà, donc nous, on s'est créé à peu près en 2019, dans le contexte d'un regain des luttes contre les centres de rétention depuis l'extérieur, notamment après une assemblée qu'il y avait eu à Paris contre les centres de rétention. Et ça fait suite aussi à une grosse répression qu'il y avait eu dans les mouvements contre les centres de rétention après 2008, où il y avait eu un incendie au CRA de Vincennes et où les mouvements contre les centres de rétention avaient soutenu les personnes qui étaient inculpées dans l'incendie, et où du coup il y avait eu des très fortes répressions. Et du coup ça s'était un peu essoufflé, et du coup là depuis 2019, il y a un peu des nouveaux collectifs anti-CRA qui renaissent un peu partout en France, et donc nous on en fait partie. Du coup, nous, on lutte pour l'abolition des CRA, mais du coup, ça passe avant tout par le soutien des personnes qui luttent à l'intérieur, donc par le relais de leurs paroles et puis par le soutien matériel. Mais on fait aussi des liens avec des mobilisations à l'extérieur contre les prisons, contre les frontières, des campagnes antiracistes pour la régularisation. Donc, on essaye de soutenir le CSP ou d'autres collectifs. Et nous, du coup, on est pour l'abolition des centres de rétention et pas pour l'amélioration des conditions de détention ou la réduction du temps et tout. Nous, l'objectif qu'on prône, c'est l'abolition pure et simple des centres de rétention, ainsi que celle des frontières et aussi, plus généralement, de toutes les prisons. Mais voilà.
Oui, du coup, ça vous fait de votre position une position assez politique, quoi. Enfin, qui, comme tu le dis, qui prétend pas à améliorer la situation, mais à la changer. Comment vous luttez pratiquement contre les CRA ? C'est quoi vos activités en ce moment ou ce qu'elles ont pu être avant ?
Notre activité principale, c'est ce que disait Cravant à l'instant, c'est vraiment d'essayer de faire sortir la parole de l'intérieur par tous les moyens possibles. Et du coup, ça passe avant tout par le contact direct avec les personnes détenues dans le CRA, par des appels téléphoniques et aussi par des visites. Et ça nous permet de, à la fois de les soutenir moralement et aussi matériellement quand on peut, en apportant de la nourriture, du tabac, des vêtements. Et aussi d'être informé de ce qui se passe à l'intérieur, du coup des mouvements de résistance, et de pouvoir les relayer, diffuser les témoignages des personnes qui participent sur notre blog. L'adresse c'est cramtoncralion.noblog.org, et de les soutenir par tous les moyens possibles. Et à côté de ça, on essaie aussi de mener des actions de visibilisation et de mobilisation à l'extérieur. Sur les réseaux sociaux par de l'information et de la com de base, et aussi surtout dans l'espace public, en organisant des événements comme des manifs ou des rassemblements, à la fois directement au centre de rétention à destination des prisonniers et des prisonnières, et aussi dans Lyon. Et par exemple, le 6 mai dernier, on a organisé une cantine place Mazagran dans le 7e arrondissement de Lyon. L'objectif, c'était de récolter des fonds pour le soutien aux prisonniers et aux prisonnières, et aussi de diffuser de l'information, de la documentation d'antirépression aux personnes directement concernées par le risque de contrôle de papier, d'interpellation et de placement en centre de rétention. Et ça avait d'autant plus de sens pour nous de le faire place Mazagran et à la Guillotière en général, parce que c'est un quartier où il y a vraiment une forte présence policière et des contrôles de la police aux frontières très fréquents. Et d'ailleurs, à ce sujet, on organise à nouveau une cantine le vendredi 17 juin, place Mazagran. Du coup, rendez-vous le 17 juin, place Mazagran, pour une deuxième cantine anti-CRA. Et juste pour préciser, toutes ces actions, on essaie de les mener en lien avec d'autres collectifs lyonnais. Du coup, bien sûr, le CSP 69 qui est présent avec nous. Et aussi d'autres collectifs, comme le collectif anticarcéral FRACA, le collectif de soutien aux personnes exilées LGBT de MSG, et aussi d'autres collectifs anti-CRA à l'échelle nationale, les camarades qui luttent à la frontière franco-italienne, etc.
Alors, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'il y a deux CRA maintenant à Lyon. Donc, il y a un deuxième CRA qui est tout nouveau, qui date du début de l'année. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce nouveau CRA et d'où il sort et ce qu'il est ?
Ouais, du coup, ces 20 dernières années, il y a eu à peu près 11 constructions de CRA en France. Et ça fait depuis 2019 qu'il y a une nouvelle vague de construction, donc à Orléans, à Bordeaux, mais aussi du coup à Lyon. Et il y a aussi des extensions de CRA, donc c'est le cas par exemple à Coquerel à côté de Calais ou à Lesquin à côté de Lille, et mais aussi à Ménilamlo où il y a un des plus gros CRA de France avec 240 places, 2000 personnes par an qui y sont enfermées, et il y a 40% des personnes qui sont enfermées qui sont expulsées, et là ils veulent construire 64 nouvelles places. Mais du coup à Lyon, le nouveau CRA qui était en construction depuis un moment, il a ouvert le 17 janvier. Et au moment de l'ouverture, du coup, c'était pendant la période du Covid. Du coup, l'ancien CRA a servi de CRA Covid, où du coup, plein de gens, enfin, plein de prisonniers dans des CRA en France qui avaient le Covid étaient envoyés au CRA de Lyon. Mais maintenant, l'ancien CRA, il a fermé. Et du coup, les deux CRA sont à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Et l'ancien CRA, il a fermé, il est en travaux. Et normalement, il devrait rouvrir en fin 2022. Et le nouveau CRA, du coup, il a ouvert et il y a déjà des problèmes de salubrité malgré le fait que ce qui était avancé, c'était on va construire un nouveau CRA, comme ça, il y aura de meilleures conditions, etc. Mais on voit bien que c'est complètement bidon parce que du coup, l'ancien, on le garde, mais on le rénove un peu. Et le nouveau, il y a déjà des problèmes de salubrité. Il y a plein de témoignages qui nous disent qu'ils entendent les avions parce que c'est vraiment juste sous la piste d'atterrissage du coup, et d'envol. Du coup, ils entendent les avions en permanence, ce qui est très dur psychologiquement. Il y a beaucoup plus de matériel de contrôle, c'est beaucoup, enfin voilà. Et il y a aussi dans les technologies de répression, il y a des blocs séparés, là où avant dans l'ancien CRA on pouvait circuler, etc. Ils ont installé des filets aussi pour éviter qu'il y ait des gens qui balancent des choses, etc. Et du coup là le 28 février il y a eu un assez fort mouvement de contestation au nouveau CRA où il y a eu un incendie qui a démarré dans un bloc, du coup qui l'a en partie brûlé. Et où il y a plusieurs personnes qui ont été blessées. Et l'administration du CRA a abandonné les personnes un peu. Elle les a pas informées de ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs personnes qui ont été mal soignées, etc. Et du coup, il y a certaines des personnes qui ont été envoyées en garde à vue et qui subissent de la répression. Et du coup, pour faire une conclusion un peu plus générale, l'objectif là pour l'État, c'est d'ici 2025 qu'il y ait 2200 places de CRA, enfin dans les CRA en métropole. Là, il y a déjà eu une augmentation de 17% des places en 5 ans. Donc en 2017, on était à 1490 places et là, on en est à 1946. Et du coup, l'objectif, c'est toujours plus de places pour enfermer toujours plus de personnes, toujours plus longtemps. Donc avec l'augmentation à 90 jours de la détention, alors qu'avant, c'était 45 jours. Vers 2019 et aussi avec un lien de plus en plus constant entre prison et centre de rétention qu'on constate ces derniers temps.
Ouais, alors justement sur ce lien entre prison et centre de rétention, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus de pourquoi pour vous c'est important de lier autant ces deux structures-là qui sont très proches, mais pourquoi ça vous tient tant à cœur de les lier ?
Parce qu'il y a vraiment plein de liens entre les CRA et les prisons. Et déjà, il y a un phénomène qui se développe en ce moment, c'est vraiment la criminalisation croissante des formes de résistance dans les CRA. Et en gros, c'est de plus en plus facile pour l'État de condamner à de la prison ferme tout prisonnier de CRA accusé de refus de se soumettre à une mesure d'éloignement. Avant, c'était surtout le refus d'embarquer qui était passible de prison ferme. Et en gros, ça permet d'envoyer les personnes en maison d'arrêt pour quelques mois, à l'issue desquelles ils ou elles sont souvent de nouveau envoyés en CRA. Et voilà. Et du coup, les témoignages montrent de très nombreux exemples de personnes qui ont fait 6 mois d'enfermement, voire plus. Et depuis le Covid, il y a un truc qui apparaît hyper fréquemment dans les témoignages et qui est très peu médiatisé, c'est le fait que beaucoup de prisonniers et prisonnières prennent des peines de prison ferme pour le refus de test. C'est-à-dire, en fait, le test PCR, il est requis par pas mal de pays avant toute expulsion sur leur territoire. Et du coup, les prisonniers se servent du refus de test comme un outil de résistance individuelle face à l'expulsion. Et ça, maintenant, c'est passible de prison. Ce qui permet en fait pour l'État d'allonger la durée de rétention légale qui est déjà passée à 3 mois et qui peut passer à 6 mois, voire 9 mois, voire 1 an grâce aux allers-retours entre CRA et prison. Voilà, et à côté de ça, il y a le fait que de plus en plus de personnes étrangères en prison sont placées en CRA à leur sortie de prison. Et ça, c'est le principe de la double peine qui est un principe ancien qui s'est surtout développé à partir des années 70 avec toute une série de mesures judiciaires qui visaient à généraliser les expulsions des personnes étrangères. Et en fait, ça va avec le fait que pour faciliter les passages prison-CRA, les services pénitentiaires et les préfectures échangent des infos très précises quoi, pour empêcher, par exemple, le renouvellement des titres de séjour ou mettre des OQTF aux personnes qui sont en CRA. Et la dernière raison pour laquelle c'est important pour nous de lier CRA et prison, c'est le fait que en fait, la gestion des CRA, elle s'aligne complètement sur celle des tôles. Par exemple, dans les CRA, il y a aussi un mitard qui est gardé par les flics de la PAF, qui sont souvent violents. Il y a des transferts disciplinaires entre CRA pour casser les révoltes, des pratiques d'humiliation et de répression des gens qui sont désignés comme les meneurs ou les meneurs. Une gestion de la détention par les médicaments pour éviter toute forme de révolte. Bref, toutes les pires pratiques des tôles, elles sont aussi utilisées dans les CRA. Et voilà, et tout ça, ça crée une boucle d'enfermement à répétition qui va avec les humiliations, les violences. Tout ça, ça permet à l'État de réprimer les personnes sans papier et leur résistance par l'expulsion quand c'est possible ou par les poursuites judiciaires quand c'est pas possible. Ce qui s'est passé du coup avec l'incendie au CRA de Lyon il y a quelques mois. Et juste sur le sujet des prisons, du coup j'ajoute que demain il y a une mobilisation nationale contre les violences pénitentiaires qui est lancée à l'appel de l'association IDIR Espoir et Solidarité, du coup qui est un collectif qui s'est monté après le décès en prison de IDIR, qui est mort le 9 septembre 2020 sous les coups des matons à la prison de Corba. Et du coup, on appelle à rejoindre cette mobilisation contre les violences pénitentiaires, contre les quartiers d'isolement, et on ajoute un petit contre toutes les prisons.
Et donc, c'est demain à 14h, place Bellecour, le rendez-vous. Et pour se faire une petite idée de ce que votre collectif propose comme action, on va s'écouter un extrait de parloir qui a eu lieu il y a quelques mois devant le CRA donc, de Lyon.
Les flics et les matons, les
Madame, bonsoir, je suis albanais, je fais 1 mois ici. T'as compris?
Oui, tout le monde t'écoute.
Je finis ma prison, ma peine, je me garde ici encore 1 mois, 2 mois. La vie de ma mère ici, c'est la merde. C'est tout sale, dégueulasse, c'est pas bien, on ne dort pas bien, les jeunes, il y a du vol tous les jours, entre l'eau. C'est la merde, madame, c'est la merde, comment je vais t'expliquer ça?
Ni
expulsion,
ni paf, ni raf, ni prison, ni expulsion, ni paf, ni raf, ni prison, ni expulsion.
Pour là, on est 50 là devant le centre de rétention et on vous écoute.
I spent how many times I lost my family, my mom, my sister, my brother, family in Libya.
Voilà, c'était un petit extrait d'un parloir organisé par le collectif Anti-CRA. Du coup, on vous remercie vraiment d'être venu. On remercie aussi Najet du collectif Sans Papier 69 d'être venu. Et on vous dit à une prochaine à la radio. On avait aussi invité pour ce plateau contre les frontières les mineurs de chez GEMA, mais finalement, ils n'ont pas pu venir. Du coup, à la place, on va passer un petit extrait d'une émission qu'ils ont réalisée eux-mêmes avec l'aide de l'association Tilantia dans le cadre d'un projet qui s'appelle Habiter et raconter les lieux refuges. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir écouter leur présentation directement par eux-mêmes. C'est parti.
La voix de Gema. L'émission des habitants du squat. Bonjour Mamadou, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que Gema?
Bonjour. Oui, bien sûr. Chez Gema, c'est un bâtiment réquisitionné pour héberger des jeunes mineurs isolés que la métropole de Lyon n'accueille pas. Le squat a été ouvert en novembre 2021 et il se situe dans la pente de la Croix-Rousse. Aujourd'hui, nous sommes 34 à y avoir trouvé refuge. Nous venons de Guinée, de Côte d'Ivoire et de plein d'autres pays. On s'organise tous ensemble pour pouvoir vivre au mieux et on attend tous d'être pris en charge par la métropole.
Allons à la découverte de certains des habitants. C'est la rubrique instantanée.
Instantanée.
Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, mon nom c'est Keïta Aboubakar. Je suis en France depuis le mois de septembre 2021. Je viens de la Guinée-Conakry et je suis chez Gema. Ça fait 4 mois. Et la manière dont on s'organise à chez Gema, c'est par chambre. Chaque jour, c'est une chambre qui fait la cuisine et puis c'est eux qui font tout, le ménage, la lessive, tout. C'est eux qui font tout. Et la vie du squat, c'est pas facile, mais on essaie de s'adapter quoi, pour vivre ensemble. Depuis que je suis à Lyon, je ne fais que étudier et c'est ça qui m'intéresse, pas rien d'autre. Je veux être un conducteur des engins du chantier quoi. C'est ça mon rêve le plus fou. C'est ça que j'aime.
Bonjour, je me nomme Diallo Tierno Lourman, je viens de la Guinée-Conakry.
Ça fait longtemps que tu habites ici ?
Oui, il y a de cela 3 mois. Ouais, l'endroit est bien, mais du coup, avec un peu de difficulté, parce que du coup, on n'est pas bien logé dans les squats. Il faudra combien de personnes par chambre ? 5 ou 6 personnes. Donc du coup, on a envie aussi de vivre comme d'autres le veulent aussi. Ouais, ici, les gens sont gentils, ils sont sympas. Les bénévoles nous assistent. Ils viennent ici nous donner des cours. Quand même, l'intégration, ça prend petit à petit. Mais vivre en dehors de sa famille aussi, c'est quelque chose qui est énorme. Bah, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est de nous parvenir, c'est d'être régularisé, c'est d'être heureux, c'est d'être comme les Français, comme eux vivent, parce que personne n'a envie de vivre dans ce vie que nous vivons. Tout le monde a envie de vivre une vie meilleure, une vie de ses rêves. Parce que de ce qu'on apprend de la France, ce n'est pas de la manière. La France, on doit beaucoup à la France et la France nous doit aussi beaucoup. Parce qu'on est quitté loin pour être là et si on est là, nous voulons être heureux, nous voulons appeler la famille et dire que ouais, nous vivons dans une vie meilleure.
On accueille tout de suite en plateau 2 soutiens du squat qui vont répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du squat ?
Bah, c'est assez simple et c'est beaucoup de hasard. Nous sommes un groupement de gens du quartier qui ont tous leurs enfants scolarisés à l'école des Tables Claudiennes. Et le soir, après l'école, nos enfants allaient jouer dans le parc de la Grande Côte. Et à la rentrée, on s'est aperçu qu'il y avait des jeunes qui avaient à peine quelques années de plus que nos enfants qui dormaient dehors. Donc immédiatement, on a décidé à quelques-uns d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc au départ, ça a été de la collecte d'argent pour faire des nourritures, enfin pour leur donner de la nourriture. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. On a organisé les dimanches solidaires où nous sommes au 6e aujourd'hui. Et puis le froid est arrivé et on s'est dit qu'on ne pouvait pas les laisser dans les tentes. Donc on s'est débrouillé pour trouver des appartements pour les mettre à l'abri, de manière à ne pas en retrouver un en hypothermie le matin. Et donc le squat a ouvert le 28 novembre, au départ avec trois appartements, et puis maintenant on en a 5. Ce qui nous permet d'avoir un lieu où ils font la cuisine, une infirmerie et une salle de vie dans laquelle ils font leurs devoirs, ils jouent, comme des jeunes ados de leur âge.
Ouais. Normalement, c'est la métropole qui doit prendre en charge les mineurs isolés. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux élus qui nous écoutent?
Oui, il y en a plein de messages. Le premier, c'est « Y en a marre, vous nous faites chier ». C'est inadmissible de laisser des gamins dehors par l'hiver en France, la 6e ou 5e puissance du monde. Et il y a des gamins qui dorment dehors sans aucun droit. Donc, et on voit passer les politiques qui nous disent « Ah, un mouvement citoyen a plus de pouvoir que la politique locale. » Mais ils se moquent de nous. Prenez en charge ceux dont vous avez la responsabilité et laissez pas des gamins dehors.
Voilà, on vient d'entendre le message que font passer les soutiens de chez GEMA à la métropole. Donc, on est toujours sur le plateau contre les frontières et c'était une petite émission, enfin un extrait d'une émission qui a été réalisée par les habitants du squat chez GEMA avec l'aide de Tilantia, l'association lyonnaise Tilantia. Et du coup, ça va être l'occasion de clôturer ce plateau.
Avec un autre extrait de cette même émission où ils vont plutôt parler des dimanches solidaires qu'ils organisent un dimanche de temps en temps pour faire parler du squat et des habitants. Le prochain dimanche solidaire aura lieu le 19 juin de 11h à 19h. Ce sera dans l'amphithéâtre des Trois Gaules et on se quitte là-dessus.
Nous voilà de retour sur Place Chardonnay. Nous sommes en direct des Dimanches Solidaires, un événement qui a lieu chaque premier dimanche du mois en soutien aux mineurs isolés de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire le programme de cette journée solidaire ?
Je ne sais pas, il y a des concerts, il y a des animations théâtrales tout à l'heure, il y a aussi des ventes de nourriture, un vide dressing solidaire, des ventes de plantes qui ont été mises en pot par les jeunes du squat. Il y a un match de boxe aussi, il y a une démonstration de boxe avec Éloi tout à l'heure. Et puis tout ça pour permettre de faire connaître à tous les habitants du quartier et au-delà du quartier ce que font les jeunes dans le squat, qu'ils vont à l'école, qu'ils vont... qu'ils font du jardinage, qu'ils font du ménage dans le squat, qu'ils ont une vie et qu'ils ne sont pas juste sous la tente.
Et surtout, ça nous sert également à collecter des fonds.
Collecter de l'argent.
Parce qu'on a besoin d'argent pour les nourrir quotidiennement. C'est 8 kilos de riz, 3,5 kilos de poulet, 1 litre d'huile, des bonbonnes de gaz. Et donc, tout l'argent qui est collecté dans ces jours, ces dimanches solidaires, servent à financer le squat.
C'est la seule source de revenus.
C'est notre seule source de revenus.
Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu multiplié toutes les opérations pour pouvoir récolter un maximum d'argent et vous impliquer aussi dans les actions qui étaient mises en place.
Et tout de suite, nous écoutons la musique de Frazao. Frazao Plaisir, le titre c'est Les Aventuriers du Désert.
Dédicace à tous les aventuriers du désert. Dengora Bastaïne. Voilà ça. Thank you.